adopté.
Est-ce que c'est le français ou l'arabe? Les deux. Bah, parce qu'il y a une traduction. Mais on, oralement, est-ce que je dois le faire en français ou en arabe? L'assistance. Bon. Donc, si vous permettez, je vais le faire en français, puisque ça m'a été demandé de faire en français. Et comme il n'y a aucune objection à ce que je change de recommandation. Bon, voilà, donc je vais essayer d'aborder rapidement cette question des droits économiques sociaux à travers 6 points, disons. Le premier point va traiter rapidement de l'historique de ces droits économiques sociaux. Deuxième point, des caractéristiques. Troisième point, du contexte actuel économique social et la situation de droit économique social. Quatre points, c'est l'enjeu actuel, l'enjeu principal. Cinquième point, l'état de droits économiques sociaux en Tunisie et les priorités, sixième point. Tout ça, je vais l'aborder en style télégraphique, donc je ne vais pas chercher à m'étaler outre mesure pour laisser le temps au débat et à la discussion. Donc l'historique, il faut rappeler qu'au départ, il y avait une vision dichotomique qui a régné entre les droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux. Et cette dichotomie a été observée en particulier dans le contexte de la guerre froide. C'est le bloc des pays socialistes qui, en fait, se présentaient comme les défenseurs essentiels des droits économiques, sociaux et culturels, évidemment, dans le monde, considérés comme étant les objectifs du socialisme lui-même. Alors que les pays occidentaux, plutôt, insistaient sur les droits civils et politiques et chercher à les garantir par tous les moyens, parce que ces droits sont considérés comme des éléments essentiels de la liberté et de la démocratie. Petit à petit, donc, on va assister à un dépassement de cette vision dichotomique. Évidemment, ce dépassement pouvait être observé déjà dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Puisque dans cette déclaration en 10 décembre 1948, la déclaration contenait des éléments relatifs aux droits économiques et sociaux. Mais dans cette déclaration, il n'y a pas obligation. Il n'y a pas donc aucune force obligatoire qui imposait ces droits. C'est vers 1966, les dates essentielles qu'on peut repérer, vers 1966, plus précisément le 16 décembre, que l'Assemblée générale des Nations Unies va adopter deux pactes qui vont venir confirmer le caractère obligatoire des droits en général. Le premier pacte concerne les droits civils et politiques, et le deuxième pacte concerne plus précisément ce qui nous intéresse ici, les droits économiques, sociaux et culturels. Mais cette avancée sur le terrain de l'obligation de l'application de ces droits est entachée un peu d'une déception. La déception, c'est cette division entre les droits économiques, sociaux et les droits politiques et civils. Pourtant, tous les droits sont indivisibles et tous les droits sont universels. Indivisibles et universels parce qu'ils sont ancrés dans toutes pratiquement les tradition humanitaire dans toutes les revendications pour la libération de l'homme. Et donc, c'est une séparation un peu artificielle qui porte préjudice à l'universalité et l'indivisibilité de ces droits. Enfin, très rapidement, sur le plan historique, on peut constater qu'au cours des dernières décennies, disons, avec la mondialisation, on assiste à des répétitions de violations de ces droits économiques sociaux et à la montée des revendications qui placent justement les droits économiques et sociaux au cœur des revendications de la société civile, avec pour but leur application réelle, leur avancée et leur généralisation, et surtout, comme on va le voir dans un point, leur justiciabilité. La justiciabilité des droits économiques et sociaux, c'est-à-dire la possibilité de faire recours à l'appareil judiciaire pour justement exiger ces droits. Voilà historiquement qu'est-ce qu'on peut rapidement dire. Les caractéristiques maintenant. De plus en plus, donc, comme j'ai dit, on a évolué graduellement à travers différentes avancées, différentes réalisations des revendications de la société civile vers une conception qui considère que les droits économiques sociaux sont un complément aux droits civils et politiques. Donc c'est déjà une évolution, disons, positive sur ce terrain. Ces droits économiques et sociaux sont considérés comme des droits fondamentaux qui devraient donner lieu à des prestations ou à une participation. Mais ici, il faut faire une distinction entre les droits politiques et civils et les droits économiques et sociaux. Les droits civils et politiques demandent une abstention des pouvoirs publics, abstention d'intervenir pour permettre la liberté de la presse, d'association et ainsi de suite. Alors que les droits économiques, sociaux et culturels ne peuvent pas être garantis sans l'action de l'État. Donc les droits civils nécessitent l'abstention de l'État, alors que les droits économiques, sociaux impliquent l'intervention et la sollicitation de l'État. D'ailleurs, sur la base de cette distinction un peu artificielle, on a parlé de différence qui oppose les droits liberté aux droits créance. Les droits liberté aux droits créance. Les droits créance dont le principal, sinon l'unique, débiteur est l'État. Mais on va voir que cette distinction, elle est rejetée parce qu'elle est adoptée par une minorité des gens qui parlaient de cette question. Et néanmoins, cette distinction a été utilisée par certains pour dire que les droits économiques et sociaux ne sont pas des droits des personnes à part entière, que ce sont des droits programmatiques qui représentent un idéal, dans ce sens qu'elles représentent un idéal, mais qui ne peuvent pas être exigés. Donc, elles représentent un idéal, mais qui ne peuvent pas être exigées. Ce n'est pas la position de la société civile, hein. C'est la position de certains auteurs qui ont réfléchi sur ces questions. Elle est plutôt une vision libérale de la chose. Dans tous les cas, l'obligation de l'État, le premier responsable du respect des textes internationaux et des lois, reste de trois ordres. Le premier ordre, l'obligation du respect de ces droits, mise en œuvre des politiques respectueuses de ces droits. Deuxième obligation, l'obligation de protection de ces droits économiques et sociaux, c'est-à-dire protection contre les violations. Troisième obligation, l'obligation de mise en œuvre. L'État doit tout mettre en œuvre, notamment réserver un minimum de ressources selon les contraintes et les spécificités des pays, pour garantir au plus tôt ces droits économiques sociaux. Donc, tous ces droits nécessitent à la fois une action positive et une action négative de l'État. C'est-à-dire, négative, ne pas intervenir, et positive, intervenir pour les réaliser. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que la séparation entre droit à liberté et droit à créance n'est pas justement approprié pour parler de ces droits. Troisième point, très rapidement, j'ai dit que dans le contexte actuel de la mondialisation, on assiste à une répétition des violations de ces droits économiques sociaux. Parce qu'en fait, la répression n'est pas seulement toujours d'ordre politique exercée par des pouvoirs non démocratiques, elle est aussi d'ordre économique et elle est plus insidieuse, plus diffuse et plus dangereuse. Dans le contexte de la mondialisation, on assiste à l'émergence d'activités des firmes multinationales et de grands projets d'infrastructures qui ont donné lieu à des atteintes à l'environnement, qui ont donné lieu à des expulsions de population pour faire ces grands travaux d'infrastructures et de mise en exploitation de certaines richesses naturelles, qui ont donné lieu à l'aggravation de la pollution autant de l'eau que de l'alimentation et qui ont donné lieu à une perte des activités économiques pour des populations endogènes, pour des populations autochtones qui vivaient sous forme d'autosubsistance dans différents endroits du monde, sans mentionner un peu les exemples. À côté de la mondialisation et à l'intérieur de la mondialisation, il y a les politiques néolibérales qui ont été appliquées un peu partout, qui n'ont pas manqué non plus de porter atteinte à un ensemble de droits économiques sociaux à travers la flexibilisation de l'emploi et sa précarisation, à travers une décentralisation des négociations collectives. De plus en plus, les négociations sont individuelles et pas collectives, et à travers une marchandisation de la vie sociale dans tous les domaines. C'est pour cela qu'au niveau global, on assiste toujours à l'existence de plus de 1 milliard de personnes qui vivent au-dessous de la pauvreté. Le seuil de pauvreté ici est fixé à 1,25 $ par personne ou par jour, à 1 milliard pratiquement d'analphabètes, à 1,1 milliard de gens qui n'ont pas de possibilité d'accès à l'eau potable, à 2,6 milliards qui ne bénéficient pas du système d'assainissement de base, à 77 millions d'enfants dans le monde qui ne sont pas scolarisés, pour citer un peu les aspects les plus saillants concernant la misère humaine. Quatrième point, donc les enjeux des droits économiques sociaux. J'ai mentionné rapidement les quatre dates qui me paraissaient essentielles concernant ces droits économiques sociaux: 1948 avec la déclaration, 1966 avec l'adoption du protocole relatif aux droits économiques sociaux, mais il faut aussi mentionner un peu en 1985 il y a eu la mise en place d'un comité des Nations Unies pour suivre un peu l'état des droits économiques et sociaux dans les pays, ce qui donne assez régulièrement lieu à des rapports par pays qui sont discutés et qui sont formulés par les États, mais qui ont la possibilité d'être discutés par les composants de la société civile. Enfin, en 2008, il faut mentionner un événement qui est majeur, c'est que il y a eu un protocole facultatif, au départ, facultatif, se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, commerciaux, qui a été adopté par les Nations Unies le 10 décembre 2008. La date était choisie intentionnellement parce que c'est une commémoration du 60e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme en 1948. Donc ce protocole facultatif et additif, considéré comme une avancée majeure, dans la mesure où, pour la première fois depuis 1948, tous les droits humains sont considérés sur le même pied d'égalité et peuvent potentiellement être protégés de manière comparable, selon ce protocole adopté en 2008. Donc, il y a cette avancée. Mais ce protocole, je crois, il doit être ratifié pour être appliqué par au moins 30 pays. Je vous m'excuse, mes connaissances ne sont pas peut-être à jour. À mon avis, on n'a pas atteint encore les 30 pays jusqu'à maintenant. Mais comme les choses évoluent, donc je ne sais pas si on a atteint 30 pays, mais mes connaissances s'arrêtaient à 20 pays pour moi qui ont ratifié ce protocole. Depuis, des connaissances un peu qui datent d'une année environ, mais depuis, je ne sais pas s'il y a eu d'autres pays qui ont pu le ratifier. Dans tous les cas, la société civile est appelée à faire des pressions sur leur gouvernement, sur leur parlement, pour exiger l'adoption de ce protocole afin que la protection de ces droits devienne justement effective. Mais même si cette protection est effective dans la mesure où 30 pays auraient adopté justement ce protocole facultatif, il reste néanmoins que l'application du respect de ces droits représente toujours un défi dans le monde. Pourquoi ? Parce que parce qu'il va falloir justement avoir la possibilité de dénoncer des violations, de s'introduire en justice les gens qui ont causé des violations, que ce soit introduire des procès par les victimes des violations ou par des ONG chargées justement de défendre. Ça, c'est donc l'applicabilité réelle de ces droits va poser toujours de problèmes. Enfin, aussi pour garantir ces droits, il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il est essentiel et nécessaire d'introduire ces droits dans la constitution même du pays pour pouvoir assurer une garantie effective et réelle de ces droits. Donc c'est un enjeu, c'est comment peut-on aboutir à mentionner ces droits économiques et sociaux dans les constitutions même des pays pour pouvoir espérer les garantir effectivement. Enfin, le dernier point, j'ai dit que pour la Tunisie, parce qu'on m'a demandé de proposer des priorités sur cette question, il faut dire en Tunisie, comme tous les pays pratiquement, on a appliqué un programme d'ajustement structurel depuis 1986. Les effets néfastes de cette transition, peut-on dire, libérale vers l'économie libérale, se sont réalisés ces effets néfastes à travers la dynamique de la marchandisation de la vie sociale. C'est-à-dire tout est devenu payant et pour accéder à tous les services collectifs, de plus en plus, on est obligé de passer par le marché et de payer la plupart du temps les prix du marché. C'est-à-dire, quand je dis le prix de marché, c'est-à-dire des prix qui ne sont pas soutenus et subventionnés par l'État. Donc, les prix tels qu'ils sont fixés par la loi de l'offre et de la demande sur le marché, en particulier, c'est pas la loi de l'offre et de la demande dans beaucoup de domaines, mais c'est la loi de la spéculation et de monopole qui détermine la plupart du temps ces prix. Donc, ceci n'a pas manqué, cette marchandisation, de premièrement augmenter le coût de reproduction des familles. Exemple, 20 ans en arrière, les dépenses de santé d'une famille sont prises en charge pratiquement à concurrence de 45% par l'État et de 35% seulement par les ménages, le reste par les caisses de sécurité sociale. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Pratiquement 60% par les ménages, 32% par l'État et le reste par les caisses. Et je crois même moins de 32% par l'État. Les caisses parce que je crois, leur part est de l'ordre de 15%. Excusez-moi, je n'ai pas les chiffres mais exacts, mais il y a un renversement, c'est-à-dire de la répartition de la prise en charge des dépenses de santé par les différents intervenants. Les différents intervenants aussi, on observe le même phénomène quand il s'agit des dépenses de l'éducation. Je vous donne un petit exemple parce que les chiffres ne sont pas bien établis en Tunisie dans ce domaine. Actuellement, un étudiant ne peut justement accéder à une résidence universitaire que pendant un an. Alors, avant, il peut rester dans les résidences universitaires le temps qu'il faut pour terminer ses études. En plus des frais de scolarité qui ont augmenté parce qu'il y a un désengagement de l'État concernant le soutien de ces... et ainsi de suite. Donc, pour vous dire que la marchandisation tend justement à augmenter le coût de reproduction sociale, le coût de reproduction des familles, des ménages, et ainsi de suite. Alors que parallèlement, l'emploi manque, puisque le chômage augmente, et parallèlement, les formes de précarité de l'emploi se généralisent. Et quand on dit les formes de précarité, c'est-à-dire l'augmentation des salaires ne suit pas toujours le coût de la vie, c'est-à-dire que le salaire n'a pas toujours le caractère permanent, puisqu'il y a des ruptures assez répétitives de travail, étant donné son caractère saisonnier, contractuel, son caractère de stage, et ainsi de suite. Donc tout cela fait peser justement beaucoup de pression sur les conditions de vie de la société. Deuxième point de la marchandisation, conséquence de cette marchandisation, c'est beaucoup de catégories sociales vulnérables trouvent de plus en plus des difficultés pour accéder aux services collectifs de base. Deuxièmement, le désengagement de l'État. Pour la Tunisie, le désengagement de l'État a porté préjudice à trois niveaux essentiellement. Premièrement, le retrait et le désengagement de l'État a été pour l'essentiel observé dans le domaine de l'investissement productif. Or, ceci a contribué à l'accroissement des inégalités régionales, parce que l'État s'est désengagé dans le domaine de l'investissement productif et a adopté des politiques visant à inciter l'investissement privé à réaliser les investissements par des exonérations fiscales, par des exonérations, par des appuis financiers, par des aides, par l'aménagement des zones industrielles et ainsi de suite, l'infrastructure, tout ce qui est donc du ressort de l'État pour inciter les investissements à justement s'effectuer, en particulier dans les zones déshéritées de l'intérieur du pays qui bénéficient des avantages complémentaires pour attirer les investissements privés, mais sans pourtant donner lieu aux investissements requis pour développer ces régions. Puisque sur 20 ans pratiquement, environ 17% des investissements privés seulement ont été orientés vers la bande des régions de l'intérieur, de l'ouest, du nord au sud. Le désengagement de l'État a été observé aussi concernant le renoncement à adopter une politique industrielle. Le principe néolibéral, qui s'appelle le principe de la neutralité, implique que l'État ne se mise pas dans le marché pour ne pas perturber son fonctionnement. Quand on dit perturber le fonctionnement du marché, c'est-à-dire perturber l'orientation des ressources, leur affectation technique, leur affectation régionale, leur affectation sectorielle. Donc l'État ne doit pas donner des privilèges ou favoriser des secteurs par rapport à d'autres ou favoriser des régions par rapport à d'autres. Donc l'État s'est contenté dans le domaine de la politique industrielle de faire une politique de mise à niveau, de faire une politique qui consiste à encourager l'investissement privé dans le cadre du code d'investissement et à faire l'aménagement du territoire pour fournir l'infrastructure et les zones industrielles nécessaires. Ça ne s'appelle pas politique industrielle. Résultat de cette politique industrielle sur le plan économique social, c'est que dans le cadre de cette politique de désengagement sur le plan industriel, qu'est-ce qui s'est arrivé? On a assisté à un système productif qui est resté globalement figé, dans la mesure où l'essentiel des activités qui sont réalisées sont des activités basées sur les avantages comparatifs fixes. C'est-à-dire, pour l'essentiel, consistant à exploiter les ressources naturelles et à les valoriser éventuellement, d'un côté, et à donner lieu à des activités utilisant essentiellement la main-d'œuvre non qualifiée. Donc, cette situation figée du système productif contraste avec le système éducatif, qui, lui, génère des produits titulaires de diplômes du supérieur. Donc, il n'y a pas de convergence entre l'évolution du système productif et l'évolution du système éducatif. Résultat, on souffre actuellement, et ce n'est pas étonnant, d'un taux de chômage élevé globalement, mais surtout d'un taux de chômage très élevé des diplômés du supérieur, dont l'effectif atteint environ 200 000 et leur taux de chômage pratiquement 33%. Donc c'est un grand problème actuellement qui se pose à la Tunisie. Troisième niveau de désengagement de l'État, c'est au niveau de la politique de redistribution des revenus. Et concrètement, ce désengagement s'observe au niveau des prélèvements obligatoires. Quand on parle des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les prélèvements fiscaux et sociaux. En Tunisie, par exemple, ces prélèvements sont caractérisés par des injustices criantes. À titre d'exemple, la classe ouvrière, par exemple, qui a une part dans le revenu national qui ne dépasse pas 32%, est amenée à payer presque 50% des impôts directs. Sans parler des impôts indirects, qui sont par définition injustes, mais qu'on ne peut pas évaluer pour les répartir entre les catégories sociales. Donc, d'un côté, la pression fiscale s'abat sur tout ce qui est productif, créateur de richesses. De l'autre, dans le système fiscal, on observe des exceptions, des faveurs, c'est ce qu'on appelle le droit exceptionnel sur le plan fiscal. C'est-à-dire, il y a le droit commun, ce qu'il faut que nous payons, et il y a le droit d'exception qui exonère, qui donne des allègements, des exonérations. Notre système fiscal, pratiquement, est devenu un système d'exception. Tellement il y a des avantages accordés, des exonérations répétées jusqu'à la dernière minute. À chaque fois qu'il y a un mouvement social, une région qui conteste, la première mesure annoncée, c'est de donner davantage d'exonérations et de faveurs sur le plan fiscal et financier. Alors que l'investissement privé n'arrive pas à suivre malgré ces avantages. Donc, tout cela a abouti, ce désengagement de l'État en termes de redistribution de revenus, a abouti à l'accroissement des inégalités sociales entre les catégories sociales et à l'accroissement des inégalités entre les régions aussi. Et à éroder aussi, surtout, le pouvoir d'achat de la classe moyenne, parce que qui non seulement n'observe pas un ajustement régulier de son revenu, de ses salaires, conformément à l'augmentation du coût de la vie, mais il n'y a pas aussi que le coût de la vie, il y a le mode de consommation qui a changé. Dans notre mode de consommation, il y a beaucoup de nouveaux produits et services qui n'étaient pas justement des produits et des services partie prenante et intégrante de notre mode de consommation. Je rappelle à titre d'exemple les portables, les paraboles, l'ordinateur et tout cela. Pourtant, tout cela n'est pas pris en compte par l'indice des prix qui calcule le coût de la vie et son évolution. La pression sur les revenus et l'absence de son ajustement conformément à l'augmentation du coût de la vie et conformément aux changements intervenus au niveau du mode de consommation et des pratiques de consommation aussi. Même les pratiques de consommation changent avec le travail de la femme, les dépenses de crèche, de transport, de maquillage et tout ça augmentent. Et tout ça n'est pas pris en considération dans notre appréciation du coût de la vie, de son évolution. Donc, tout cela m'amène à dire, très brièvement, parce qu'en fait, j'ai dépassé maintenant, pour moi, à la lumière de l'expérience tunisienne, quelles sont les priorités ? Les priorités découlent un peu d'une façon logique des observations et des analyses qui ont été avancées précédemment. C'est que le premier droit qu'il va falloir justement sur lequel il va falloir réfléchir, c'est le droit au travail. Et un travail décent, pas un travail précaire. Et même décent selon la conception de BIT. On est preneur même de cette conception minimale et qui n'est pas toujours satisfaisante. Deuxième droit qu'il faut mettre sur la table de négociation, de discussion aussi, le droit des régions défavorisées à se développer. Parce que le droit au développement est devenu un droit économique et social. Leur droit à se développer. Et le droit de l'emploi et le droit au développement sont liés. Parce que si on arrive à développer une région, ça suppose qu'on arrive à générer de l'emploi. Troisième droit qui est menacé en Tunisie, c'est le droit de la protection sociale. J'en ai pas beaucoup parlé, mais les caisses de sécurité sociale souffrent d'une situation très dégradée sur le plan financier, et cette situation est appelée potentiellement à s'empirer si rien n'est fait. Quand on dit s'empirer si rien n'est fait, ceci menace l'assurance maladie, le droit à se soigner, menace les pensions de retraite et menace tous les services sociaux qui jusqu'ici sont assurés par ces caisses. Quatrième droit pour englober le tout, c'est le droit d'accès aux services collectifs de base dans lesquels on intègre la santé, l'éducation et tout ça. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet accès est menacé, surtout pour beaucoup de catégories qui sont de plus en plus défavorisées. Enfin, c'est pas la fin, parce que les droits, il va falloir. Mais enfin, en termes de priorité, le droit à un environnement sain, parce que améliorer les conditions de vie ne suppose pas seulement une amélioration des conditions matérielles, ça suppose aussi qu'on vit dans un environnement sain pour justement avoir l'impression d'un bien-être au moins. Voilà, je m'excuse pour la longueur, mais bon, les droits économiques sociaux ne peuvent pas être abordés en 5 minutes ni en un quart d'heure. J'ai essayé d'être un peu exhaustif, mais en style télégraphique. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je crois que j'ai des amis qui vont réagir par rapport à ce que je viens de dire. Donc, ils vont enrichir cette présentation. Alors, je commence par galanterie. Hein, par galanterie, on commence par elle. C'est Adnan, mon trashman.
Bonjour, donc, Hassiba Al-Sahraoui. Amnesty International. Merci beaucoup pour cette présentation et je suis particulièrement émue aussi d'être sur le même panel que Adnan Hadji parce que que nous avions été désolés de votre arrestation et des circonstances de votre arrestation. Et voilà, c'est très émouvant d'être avec vous aujourd'hui. Je crois que les événements en Tunisie sont la démonstration parfaite de l'indivisibilité des droits économiques, sociaux et culturels et des droits civils et politiques. Ce qui s'est passé en décembre, c'est vraiment lorsque Mohamed Bouazizi était aucune possibilité de subvenir à ses propres besoins en dépit de tous ses efforts et par la suite aussi aucune possibilité de se plaindre des abus ou du comportement abusif des forces de sécurité, ça démontrait l'indivisibilité des droits. Ce qui nous a frappé aussi dans le cadre de notre travail à Amnesty International, c'est de voir la discrimination qui pouvait exister. On peut parler d'inégalité, mais on voit vraiment de la discrimination. J'en veux comme illustration, lorsque nous sommes rendus dans les régions du centre du pays qui avaient été affectées par la violence, ce sont principalement des familles pauvres qui ont eu des membres de leur famille qui ont été tués. De tous les cas sur lesquels nous avons travaillé, de tous les cas que nous avons recensés, il y avait une seule personne qui venait d'un milieu aisé ou de classe moyenne. C'est vraiment, et ça c'était frappant, vraiment frappant, le niveau de pauvreté des régions du pays, des régions du centre du pays, et le niveau de privation en fait des populations. Mais tout ça se passe dans un contexte international où les autorités tunisiennes avaient réussi à présenter une certaine image de la Tunisie. On parlait du miracle économique tunisien avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui félicitaient la Tunisie de tous ses développements. Mais ce qui nous frappe, c'est la discrimination. Il y avait peut-être des indicateurs économiques qui étaient très performants, mais derrière cela, il y avait une discrimination et il y a une discrimination qui est très présente. Je crois que la difficulté réelle qui nous attend, les revendications économiques et sociales ont été clés dans le mouvement de révolte qu'il y a eu en Tunisie, dans la révolution tunisienne. Or, le risque, c'est qu'elle soit complètement mise de côté, qu'on se concentre sur le processus électoral, qu'on se concentre sur les droits civils et politiques et qu'on oublie toutes ces revendications économiques et sociales. Avec un danger réel, c'est que la population, dont c'est la préoccupation principale, les gens, que ce soit en Tunisie ou en Égypte, disaient « moi, je veux nourrir ma famille, je veux un travail, je veux la dignité, je veux de la justice sociale ». Et oui, on parlait de liberté, on parlait de la fin des abus, mais ce sont ces revendications-là qui, et c'est notre responsabilité à tous de répondre à ces revendications économiques et sociales. Or, pour l'instant, on voit ce message n'est pas encore pleinement parti des débats politiques. On se concentre beaucoup sur le... On a beaucoup parlé, par exemple, pendant nos travaux, du droit à la vérité, du droit à la justice, du droit à la réparation. Mais finalement, on a un atelier aujourd'hui seulement. Et la question des droits économiques, sociaux et culturels a été marginalisée, y compris dans nos travaux. Or, elle doit être au cœur de notre travail, parce qu'il y a un risque de désenchantement des populations. Il y a un risque aussi que les populations ne se sentent pas du tout représentées à nouveau par le système politique tel qu'il émergera de ces événements. Et puis, vous avez dressé un état des lieux sur l'état des droits économiques, sociaux et culturels. Oui, la liberté au travail, des conditions de travail décentes, les libertés syndicales, et Adnan nous parlera de son expérience. C'est aussi l'accès aux services publics. Il y a un minimum de services publics que l'État a l'obligation de garantir. On ne peut pas tout privatiser, le droit à l'éducation, le droit à la santé, mais aussi le droit à l'eau, le droit à des installations, à l'équipement public, des routes. Et comme vous le disiez, il y a des catégories qui vont être particulièrement vulnérables. Et je vous invite, là aussi on est organisé en atelier, mais à vous posez la question du rôle des femmes également. Est-ce qu'elles sont particulièrement affectées? Est-ce qu'elles vont être particulièrement affectées? Est-ce que la paupérisation de la population va faire que les femmes vont être particulièrement affectées? Et il faudra aussi conserver une dimension genre dans notre travail. On n'a pas du tout parlé là de la lutte contre la corruption, qui va sous-tendre, c'est pas qu'il n'y a pas de richesse, c'est un problème de distribution des richesses, c'est un problème d'accaparement des richesses. Et donc, comment le travail sur les droits économiques, sociaux et culturels va se... va inclure aussi le travail sur la lutte contre la corruption. Je travaille pas uniquement sur la Tunisie, mais je travaille également sur l'Égypte, par exemple, et je vois qu'en Égypte, il y a énormément d'organisations qui travaillent exclusivement sur les droits économiques, sociaux et culturels. Je ne vois pas encore cela en Tunisie. Est-ce que c'est quelque chose... parce que la répression était telle que finalement toute l'énergie était consacrée à lutter contre la répression, et est-ce que maintenant, est-ce que c'est le moment de penser à avoir des organisations de la société civile qui se consacrent aux droits économiques, sociaux et culturels? Alors c'est vrai que tout le monde le fait d'une certaine façon, les syndicats le font, les organisations de droits de l'homme le font, mais d'avoir des organisations qui se consacrent uniquement à ça et à devenir vraiment les personnes qui vont s'assurer que les droits économiques, sociaux et culturels font partie des débats. Vous avez parlé de les inclure dans la Constitution, et ça c'est essentiel, mais au-delà de la Constitution, c'est un ensemble de lois qui doit être révisé, mais c'est aussi la mise en œuvre au quotidien et contrôler cette mise en œuvre par les autorités. Mais une indication que nous avons, en tout cas de la volonté des autorités, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils avaient ratifié un certain nombre d'instruments internationaux. Alors ils ont annoncé qu'ils avaient ratifié le protocole optionnel à la Convention contre la torture. En revanche, et en dépit de demandes, le protocole optionnel au pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels n'a pas été ratifié par les autorités tunisiennes. Alors est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est une démarche délibérée? C'est une question qu'on doit se poser. Donc voilà, je vous propose quelques pistes de réflexion.
Merci. Tu m'as interpellé avant de passer la parole à mon ami Adnan. Donc, on vient de créer une association appelée Forum pour les droits économiques et sociaux. On a introduit la demande il y a un mois et demi. On attend d'être légalisé et reconnu. Déjà, cette association a commencé à faire du travail. Elle a été associée à l'enquête sur les immigrés. On a fait du travail pour ce qui concerne les exilés sur les frontières tuniso-libyennes. On a commencé à bouger, mais on n'a pas encore fixé un programme d'activité. Peut-être Amnesty International donc pourrait être invité très prochainement à la première activité que je pense qu'il va porter sur la démocratie sociale. Donc je me permets, avec la permission de mon ami Mesoud, parce que j'ai l'honneur de présider cette association, et mon ami Mesoud, c'est lui qui est le financier de cette association, donc je me permets, après son autorisation, justement, d'annoncer la première activité. Donc, j'ai un petit commentaire à la fin. Bon, je passe la parole donc à mon ami Adnan.
Moi, je vais parler en arabe, bien sûr. Je m'excuse à mes amis français.
Qui envahissent le monde arabe, je crois, il est temps de se mettre un peu à l'arabe.
Alors je m'excuse. فهمتني ولا هذاك علاش ما كنتش
مون امي عدنان
منيا و حسيبة منيا و حسيبة
وين حسيبة avions perturbé cette organisation nous avons une autre amie منيا بالجميع qui devrait aussi discuter l'intervention que j'ai faite Donc le seul atelier qui a respecté, je crois. Bah, j'ai présidé un atelier où il y avait l'égalité. Sophie et Béatrice, oui. Non, t'as raison, oui. T'as raison. Non, j'ai pas fait attention. Tellement on est habitué à cette parité, on ne l'observe plus. D'accord, toi, donc tu prends ton rôle de président, tu fais un commentaire en tant que président. Il devient intervenant. Il laisse. Allez, bon.
كما قال لكم سي عبد الجليل انا كنت ارأس هذه الورشه ولكن الغالب اضطرارا ماشي محضر تدخل ولا في هذا الجانب لكن فقط اريد ان اؤكد على ان الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه هي ام الحقوق ولا يمكن لاي حقوق اخرى سياسيه او من نوع حريات أو من نوع التنظم أو من غيره أن تكون إذا لم تكن هناك لم يتمتع المواطن بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية ولم تكن هناك عدالة اجتماعية فعلية وقد أثبتت الانتفاضات الأخيرة في تونس وهذه الثورة صحة هذا الكلام إذ كما تعلمون في الحوض المنجمي هناك انتفاضة دامت 6 أشهر من أجل مطالبة بحق الشغل وحق النصيب العادل في الثروة الوطنية وكانت هذه الانتفاضة انتفاضة الحوض المنجمي هي حجر الأساس لهذه الثورة التونسية التي نحن بسبب استكمالها اليوم كما تعلمون أن الجهات الداخلية في تونس جهات محرومة جهات غائبة فيها التنمية تماما غائبة فيها التنمية تماما منذ 57 معناها ليس هناك أي بدائل لشركة فوسفات قفصة خاصة في قفصة لشركة فوسفات قفصة ليس هناك بدائل تنموية والجميع يعلم أن هذه الثروة الفوسفاتية آيلة إلى الزوال بعد سنوات وهذه المناطق هي مناطق موت بالفعل مناطق قاحلة غائبة فيها كل مظاهر التنمية وكل مظاهر استمرارية الحياة غائبة فيها حتى القطاع الفلاحي الذي هو قطاع هام وقطاع معناها أساسي في بلادنا في هذه الجهة ليس له أثر نظرا لأن الأراضي لا يملكها الناس ليس هناك لم يتم توزيع الأراضي على الفلاحين وكذلك هناك غياب تدخل الدولة في تفجير الآبار وفي مساعدة الفلاحين كما نعلم هذا القطاع يتطلب أموال طائلة والناس هناك الفلاحون هناك ليس لهم إمكانيات حتى يستطيعون الاعتماد على أنفسهم فالانتفاضة انطلقت لغياب العدالة الاجتماعية لغياب الشغل لنسب البطالة الهائلة الموجودة في الجهة وقد خاض أهالي منطقة الحوض المنجمي معارك شرسة على مدى 6 أشهر مع قوات القمع وقوات البوليس ومع نظام بن علي وتطورت هذه المطالب الاجتماعية إلى مطالب سياسية وإلى المطالبة برحيل نظام بن علي لأن المواطن اقتنع بأن هذا النظام لا يستطيع وهو نظام عاجز على أن يوفر العدالة الاجتماعية نظرا لطبيعته نظام ديكتاتوري، نظام فاسد، نظام عصابات، نظام مافيوزي. هنا في تونس لم تكن تونس دولة بمعنى الدولة، كانت تونس هي قطعة من الأرض على هذه الكرة الأرضية تحكمها عصابات مافيوزية. اتضحت الصورة الآن تماما لكل العالم بأن هذه العصابات كانت تنهب المال العام، كانت تستنزف ثروات البلاد، كانت تثري على حساب المواطنين وعلى حساب هذا الشعب. هذه الثورة أو الانتفاضة الحوض المنجمي هي كانت حافز وكانت دافع لكل الشعب التونسي في جميع الجهات. لذلك كانت انتفاضة سيدي بوزيد الأخيرة إثر استشهاد محمد البوعزيزي، وانطلقت كالنار في الهشيم هذه الثورة، لأن الشعب التونسي كان على درجة من الاحتقان عالية، وكانت أساس هذه المطالب هي مطالب اجتماعية. وإلى حد الآن إلى اليوم، بينما النخب السياسية لها مطالب سياسية ولها اهتمامات سياسية، نرى أن في الجهات الداخلية خاصة الشعب التونسي اللي إلى حد الآن ما زال غائب عن المشهد السياسي، ما زال لا يفكر في المشهد السياسي، ما زال لا يفكر في الانتقال هل سيكون ديمقراطي أو غير ديمقراطي. كل ما يفكر فيه هو الشغل، هو الكرامة، الناس يعتصمون. القطاعات كبيرة من الاقتصاد التونسي الآن معطلة بسبب هذه الاعتصامات. إذن فلا بد من حلول عاجلة وحلول معناها سريعة حتى نخفف من حدة هذا الاحتقان، وحتى نتمكن من بناء الدولة الديمقراطية الشعبية التي نريد في المستقبل أن تكون. أشكركم، هذه لمحة سريعة على هذا الوضع، ورأيي في أن هذه المطالب هي مطالب أساسية بالأساس، وعلى النخب السياسية وعلى القوى السياسية في البلاد وكل المنظمات والأحزاب أن تولي هذا الجانب اهتماما، لأنها في الماضي لم تكن كانت اهتماماتها بالأساس اهتمامات سياسية، وهي لذلك كانت بعيدة كل البعد عن الشارع التونسي. وشكرا. شكون انت باش تدخل؟ منيا بن جميع، او حيل الميكروفون الى منيا بن جميع.
Merci. Je vais rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit. Alors oui, effectivement, il faudrait inscrire les droits économiques et sociaux dans le texte de la Constitution. Éventuellement, on peut prévoir aussi dans la Constitution des règles de discrimination positive pour les régions défavorisées. Mais cela, c'est dans un avenir... pas proche, enfin oui proche, mais c'est pas immédiat. Pour l'instant, et comme l'ont dit les autres intervenants, la situation sur le plan économique et social est véritablement alarmante. Véritablement alarmante. Je voudrais vous faire part de mon expérience en tant que membre de la commission d'enquête sur les violations des droits de l'homme durant la Révolution. Nous recevons à la commission des familles de martyrs, nous recevons également les blessés ou des familles de blessés, et nous recevons également des personnes qui ont vu leur commerce détruit durant la Révolution. Les familles de martyrs, comme l'a dit madame, les familles de martyrs, c'est toutes des familles de Bouazizi, des familles Bouazizi. Dans la mesure où ces familles ont perdu l'unique source de leur revenu. Les personnes qui sont mortes, les martyrs, travaillaient pour la famille, pour des familles composées entre 3 et 10 personnes, et c'était des journaliers, hein, des journaliers, c'est-à-dire qui, s'ils ne travaillaient pas, eh ben, ils n'avaient pas de revenus. Toutes les familles n'ont pas reçu la réparation promise, et même la réparation de 20 000 dinars ne résoudra pas tous leurs problèmes. Ces personnes-là donc travaillaient pour la famille, aidaient leurs frères et sœurs à faire leurs études avec des revenus très 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 bas, hein. Elles gagnaient entre 150 et 200 dinars, et encore 150 et 200 dinars, c'était un gros salaire.
Alors, pour les blessés, même chose. Les blessés sont soit des étudiants, soit aussi des soutiens de famille. Ils se retrouvent aussi totalement démunis, et la famille aussi, parce que ils étaient aussi soutiens de famille, et tous n'ont pas eu la réparation de 2-3 000 dinars. Et de toutes les manières, cette réparation de 3 000 dinars ne résout pas non plus les problèmes, parce qu'il y a aussi le problème des soins de santé, hein, qui ne sont pas gratuits. Ils ont vite dépensé les 3 000 dinars pour se soigner. Et puis les personnes qui ont perdu leur commerce, c'est des petits commerces, hein, c'est des petits kiosques de fruits secs, c'est des petits magasins de PlayStation, c'est vraiment des petits commerces, et ces personnes-là ont ouvert ces commerces grâce à des petits crédits, des microcrédits, crédits à la Banque tunisienne de solidarité, ou microcrédits auprès d'ONG. Alors elles se retrouvent aujourd'hui sans revenu aucun, et puis possibilité, elles ne peuvent pas rembourser leur crédit. Or, les banques sont là pour leur demander de rembourser. Donc c'est une situation qui est véritablement catastrophique, et au-delà des familles qui ont été particulièrement touchées par la révolution autour. J'ai pu voir autour la détresse d'autres familles sur le plan économique et social. Et donc, que faire? Qu'est-ce qu'on peut faire là, tout de suite, immédiatement? Parce qu'effectivement, il ne pourra pas y avoir d'élections dans de bonnes conditions s'il n'y a pas d'apaisement sur le plan économique. Donc il y a des mesures urgentes à prendre. Et j'ai pensé à deux choses particulièrement importantes, me semble-t-il. Il faudrait créer des cellules de crise un petit peu partout, hein, des cellules de crise un petit peu partout, au niveau des gouvernorats, au niveau des délégations, au niveau des municipalités. Des cellules de crise, qu'est-ce que ça signifie? Des cellules d'écoute et d'orientation des citoyens. Hein, cellules d'écoute et d'orientation des citoyens. Toutes les personnes qu'on reçoit nous disent, et puis vous avez dû le constater tous en regardant la télévision, personne ne nous écoute, personne ne nous a écoutés. Et jusqu'à présent, personne n'écoute les citoyens. Donc il me semble qu'il est très important de faire des cellules d'écoute et d'orientation des citoyens pour voir quels sont leurs besoins, et essayer de faire le relais avec les associations de solidarité ou avec les autres ONG qui peuvent donner des microcrédits, qui peuvent aider. J'ai constaté également, parce que la semaine dernière on est allé à Argeb, à Manzel Bouzayen, à Meknesi, on a été dans une famille de martyrs. Et cette famille, qui est composée d'à peu près 8 personnes, possède 25 hectares. 25 hectares de terre, mais qu'elle ne peut pas exploiter parce qu'elle n'a jamais pu obtenir de crédit. Et c'est une personne, c'est une famille qui presque meurt de faim, qui n'a pas de revenus du tout, alors qu'elle possède 25 hectares de terre. Et j'en parlais dans la voiture, et le chauffeur est de la région de Sidi Bouzid, et le chauffeur m'a dit, mais vous savez, madame, il y a plein de personnes dans cette situation à Sidi Bouzid, il y a plein de gens qui ont plein de terres, mais qui n'ont pas les moyens de les exploiter. Alors il suffirait d'écouter ces gens-là, et puis de faire le relais avec toutes les ONG qui peuvent donner des crédits pour qu'elles puissent démarrer. Encore cette famille de martyrs à Meknesi. Un des membres de la famille, le frère du martyr, m'a dit, moi je sais comment faire des serres, mais j'ai pas de moyens pour faire des serres sur mes terres. Donc il suffirait en fait d'écouter, d'aller à la rencontre de ces familles, de ces personnes, pour trouver des solutions, et des solutions immédiates. Alors sur le plan de la santé aussi, il y a un manque qui est vraiment alarmant, parce qu'on a vu beaucoup de personnes qui avaient encore des cartouches dans le corps. Des cartouches dans le corps, et qui n'ont pas les moyens de se faire soigner. À Meknesi, à Manzel Bouzayen, il y a une initiative privée de médecins qui a pris les gens de Manzel Bouzaïen, les a ramenés à Tunis et ils ont été opérés à Tunis gratuitement. Ces initiatives doivent être plus être multipliées, doivent être plus nombreuses. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas les moyens, ils sont obligés dans cette région d'aller à Sfax, d'aller à Sousse ou de venir à Tunis pour trouver les bons soins nécessaires. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Je vous remercie.
Chokran. Namour l'an ila nikash ou l'asala moujoud.
Bonjour, Pierre Teinturier du CCFD Terre Solidaire. Merci pour toutes ces interventions qui, au final, ont été très complémentaires, je trouve. Mais ce qui semble quand même dominer, c'est, avec la présentation de M. Bédoui, l'approche juridique et une analyse de l'économie politique. Et bien que des éléments ont été abordés, j'aimerais vous interroger ou essayer de réfléchir plus avec vous sur les mécanismes de changement et donc les dynamiques sociales et politiques. Au-delà de la révolution, au-delà de ce qui s'est passé, réfléchir plus devant à moyen terme. Alors les éléments, les idées plus à court terme de cellules d'écoute sont très intéressantes, mais sur la dynamique sociale et politique à plus moyen terme, je voulais revenir dessus avec vous, et donc ça interroge les organisations de société civile. Car la dimension juridique, là où elle me gêne un tout petit peu, c'est qu'elle met au cœur la victime. C'est indispensable, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais en termes d'action, en termes de mobilisation, en termes de structuration collective, par le bas, ça n'y répond pas. C'est-à-dire que le côté normatif, il faudrait inscrire ça dans la Constitution, casa. Il manque le mécanisme pour y aboutir. Et là, ça appelle aux dynamiques sociales. Sur la question de l'économie politique, et vous l'avez très bien dit dans votre présentation, effectivement, dans les DESC, les droits économiques, sociaux et culturels, il y a une dimension programmatique. Et quel acteur est en charge de faire des programmes pour interroger la place de l'État dans l'économie, c'est quand même les partis politiques. Alors, entre des victimes et des partis politiques, qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Comment se structurent les syndicats? Comment pensent le syndicat UGTT, les branches locales ou les secteurs? Comment ils réfléchissent à cette question de se restructurer pour faire face au DESC? Est-ce qu'on implique les comités de soutien des familles? Est-ce qu'il y a des initiatives collectives qui émergent? Est-ce qu'il y a une réflexion pour penser l'organisation locale de la solidarité au-delà de l'État ou en complémentarité de l'État? Je pense qu'il y a un moment, en termes de société civile, c'est aussi sur ces questions-là qu'il faudrait s'interroger. Voilà.
Merci.
شكراً. صباح الخير الناس كل. آمنة عوادي الاتحاد العام التونسي للشغل. أنا تفاعلت مع النقطة الأخيرة اللي أثارها صديقي الأستاذ عبد الجليل البدوي. ثورة الشعب التونسي هي ثورة مطالب اجتماعية ارتقت إلى مطالب سياسية عرفتها الطبقة السياسية في تونس منذ الستينات والسبعينات والثمانينات، هي تراكمات ثم الحوض المنجمي 2008. لكن أنا نحب توا نفهم حاجة، عدم التوازن بين الجهات مش عرفناه 23 سنة التالي في تونس منذ العهد البرجيبي. يعني الجهات الداخلية مهمشة منذ العهد البرجيبي، لكن فقط هناك اختلاف ما بين النظام البرجيبي ونظام المافيا عند بن علي. برجيبة ماذا فعل؟ لم يسرق الدولة التونسية، لم ينهب، هناك شريحة وسطى حافظ عليها من خلال المكاسب الاجتماعية للدولة التونسية الحديثة بعد 59 يعني الصحة والتعليم اللي أكد عليهم الأستاذ البدوي. لكن ماذا أيضا لم يفعل في لم نعيشه في العهد البرجيبي هو الانتقال الديمقراطي. برجيبة أضاع فرصة على الشعب التونسي وعلى تونس الحديثة في السبعينات وهو الانتقال الديمقراطي، لأن كنا مهيئين إلى الانتقال الديمقراطي حتى في فترة السبعينات. ثم كذلك هناك النهب والسرقة. بورقيبة معروف عليه أنه لم ينهب لم يسرق ولم يتعامل، هو مثقف لم يتعامل مع الدولة التونسية والشعب التونسي بالعقلية متاع المافيا. وانتقل إلى العهد بن علي والطرابلسية، هي عصابة نهب وسرقة. لذلك تحولت المكاسب الاجتماعية وتراجع الدور التعديلي للدولة التي تحدث عنه الأستاذ، ثم هناك الخوصصة وهناك اقتسام الثروات بين الاستثمارات الأجنبية التي تأتي إلى تونس مع عصابة المافيا الطرابلسية وبن علي. وعرفنا أشكال هشة للتشغيل، المناولة والسمسرة باليد العاملة وضعفت القدرة الشرائية وأصبحت الظواهر الاجتماعية أكثر من ظاهرة في المجتمع التونسي، وانتشرت البطالة وانتشر الانحراف والسرقة والنهب. هذه هي المظاهر التي عرفها الشعب التونسي في أواخر عهد بن علي، حتى أصبح هناك احتقان تكلم عنها عدنان، هو الاحتقان الظواهر الاجتماعية هذه اللي عاشها الشعب التونسي، ثم تطورت إلى مطالب سياسية في الثورة يوم 14 جانفي. الأولويات اللي تحدث عليها الأستاذ عبد الجليل البدوي هي أولويات التنمية. أنا نصنفها ساعة تنمية في الجهات الداخلية أولا، هي اللي بيشتخلق العمل يعني الحق في العمل، ثم بيشيجي الحق في الخدمات الاجتماعية، وبعدها بيشيجي الحق في البيئة اللي هي بعد بيشيجي. باش يجي سؤالي لهنا صديقي عبد الجليل البدوي، الدولة الديمقراطية اللي نطمح فيها اليوم والانتقال الديمقراطي بمناسبة هالسيمينار اللي نحن هندوة اللي نعيش فيها خلال الأربع أيام هذه الكل، هي الانتقال الديمقراطي في تونس. ما هوش فقط كان الدولة راهي باش تقوم بدورها أستاذي الكريم وصديقي عبد الجليل، هناك الأطراف الاجتماعية أيضا. للأسف أنا ما سمعتش الأطراف الاجتماعية شنو الدور اللي باش تقوم به. يلزم نراقبه، حتى الدولة الديمقراطية اللي باش تجي في تونس مستقبلا يلزمنا نراقبها عبر ماذا؟ المجتمع المدني، عبر أحزاب معارضة قوية، ثم منظمات اجتماعية تخوض الحوار الاجتماعي. هناك المنظمات الاجتماعية سواء اقتصادية وإلا اجتماعية هي اللي باش تعمل مع الحكومة المستقبلية ولا الدولة المستقبلية الحوار الاجتماعي اللي باش نجيبه به العمل اللائق، ولا باش نناضل من أجل بيئة سليمة ومن أجل الدفاع على الحماية الاجتماعية ومن أجل تدعيم الخدمات والمكاسب الاجتماعية. يعني أؤكد على أن الدولة الديمقراطية التونسية الحديثة اللي أنا نأمل بها ياسر وإن شاء الله نوصلوا لها لمحالة، خاطر مش معقول نعمل ثورة كبيرة كما 14 جانفي ونخرجوا من غير انتقال ديمقراطي اللي تونس لها استحقاق تاريخي، مش حتى استحقاق آني، استحقاق تاريخي في دولة ديمقراطية حديثة فيها معناها مجتمع حداثي وعقلاني تلعب فيه كل مكونات المجتمع التونسي من حكومة ودولة وأطراف اجتماعية. يعني نحب سي عبد الجليل يفهمني اليوم كيفاش نعملوا، كيفاش حكيتنا على دور الدولة فقط، ونحب دور الأطراف الأخرى اللي هي باش تكون حتى هي مسؤولة أمام الشعب التونسي على حماية شعارات الثورة ومكاسب الثورة. وشكرا.
شكرا.
C'est Riyad Garfali, juriste universitaire et co-administrateur du site nawat.org. Je voulais intervenir tout à l'heure, sachant que je suis M. Bédoui, et j'ai presque envie de dire de prendre le contre-pied de ce qui a été dit par mon collègue ici. C'est vrai que pour les droits économiques et sociaux, je vous cite totalement, C'est vrai que ça reste la promesse de multiples décennies. Et je veux dire, sur le terrain de la pratique, on observe qu'il n'y a pas grand-chose. En fait, si on observe un petit peu, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose parce que ce sont des promesses généralement qui touchent des gens qui n'ont pas de véritables moyens politiques pour exiger que les promesses soient tenues. Et vous remarquerez que pour les procédures judiciaires, quand il y a des droits, et quand on prévoit des procédures judiciaires, ces procédures judiciaires, généralement, ne touchent jamais les décideurs. Moi, ce n'est pas par radicalisme, mais je pense que pour les droits économiques et sociaux, notamment pour le développement régional, qui est également un des remèdes pour traiter de gros problèmes à ce niveau, comme par exemple le développement régional ici en Tunisie et du côté de l'intérieur du pays, Sidi Bouzid, etc. Mais à mon sens, il n'y a absolument aucune autre alternative sauf celle de dire s'il y a un projet, s'il y a un plan, il faut que la sanction par la suite soit pénale. C'est-à-dire que pour tout engagement du décideur, il n'y a pas que la sanction politique, c'est-à-dire perdre des élections, etc. Non, si on s'engage sur quelque chose, par la suite, il faut à ce niveau précisément que la sanction soit pénale. De lourdes amendes ou même des peines privatives de liberté. Parce que, on le voit, ça fait des décennies que l'intérieur du pays se trouve dans une situation absolument catastrophique, et ce n'est pas uniquement en Tunisie, même ailleurs. Et dans un domaine qui est donc justement un développement équilibré où les droits socio-économiques d'une catégorie de la population pour qu'elle soit respectée, il faut que... c'est mon point de vue. Il ne peut pas y avoir d'autre alternative au regard de tout ce qui s'est passé que l'alternative de la sanction pénale. Ça peut choquer certains, mais je ne vois pas pourquoi dans certains domaines, on peut parfaitement prévoir des sanctions pénales et pas dans celui-là. Et comme par hasard, on ne voit pas souvent de sanctions pénales lorsque ces sanctions doivent frapper des décideurs politiques. D'une part. D'autre part, juste un deuxième élément sur, et d'ailleurs ce que M. Bédoui a attiré l'attention, effectivement, entre les droits politiques et les droits socio-économiques sont extrêmement imbriqués. Ils sont tellement imbriqués que si on ne les voit pas de la sorte, que ce soit dans les pays développés ou moins développés, lorsque les droits politiques sont inexistants ou érodés, il va y avoir l'érosion des acquis sociaux également. Et je prends un petit exemple. Je vis entre la Tunisie et la France. Et c'est vrai, quand je rentre dans un supermarché français, ce que je vois, les t-shirts, made in Tunisia, made in Morocco, made in China. Moi, j'ai ma voisine qui travaillait dans une usine de textile en France. Elle a été licenciée parce que son usine a été délocalisée. Elle a été délocalisée où ça ? Dans un endroit où les salariés, s'ils vont s'exprimer pour améliorer leur quotidien, ils recevaient des coups de matraque. Non, ça ne va pas. Donc, quand nos amis chinois nous vendent des millions de t-shirts et que leurs salariés ne peuvent pas s'exprimer, moi, ça ne me va pas. Ni en France, ni en Tunisie, ça érode mes droits. Tout comme d'ailleurs, quand je suis en France, ça ne va pas que des t-shirts proviennent de la Tunisie. C'est inacceptable. Ça veut dire quoi ? Est-ce à dire qu'il faut boycotter ces produits ? J'en sais rien. Ce que je sais, en revanche, et je suis certain, c'est qu'on ne doit pas tolérer, des dépassements au niveau des libertés fondamentales, des libertés syndicales, etc. Il faut que nos amis chinois, nos amis marocains, nos amis égyptiens puissent également s'exprimer dans leur vie de tous les jours pour améliorer leur quotidien, leur salaire, etc. etc. Donc, rester dans le vœu pieux, il faut faire quelque chose pour les droits économiques et sociaux, faire ceci, faire cela. Non, on le sait, ça ne marche pas, et pour une raison toute simple. Ça ne marche pas parce que les gens touchés sont généralement des gens démunis et n'ont pas les mêmes moyens, je dirais, pour pouvoir intervenir, pour améliorer leur quotidien. Si vous voulez, quand les salariés de la SNT, ils ont un problème, ils bloquent, ils sont capables de bloquer toute la capitale, sinon toute la Tunisie. je ne sais pas, au niveau du transport aérien, on l'a vu, même les hôtesses bloquent le... Là, déjà, ils n'ont pas de travail, ils ne peuvent strictement rien bloquer. Donc, forcément, ils n'ont pas vraiment de moyens de pression. Et on le sait en politique, on est tout le temps dans l'immédiateté, il faut de la pression, etc. Ces gens-là n'ont pas de moyens de pression. La seule, personnellement, que je vois, et je finis là-dessus, c'est la sanction pénale sur des engagements pris. Voilà, merci.
Merci bien. بالله أرجو من الجميع الساعة إحنا تو 11 من المفروض نكملوا في 11 معنا حتى 11 ونص بوز كافي باش نزيدوا ربع ساعة لأن بدينا ربع ساعة مؤخر ونرجو من الجميع معنا الاختصار أكثر ما يمكن حتى نكمل مدام بياتريس قبلكم
Merci à tout le monde. Je voulais poser une question un peu dans la suite de ce qui vient d'être dit, mais un peu décalé. Est-ce que finalement, actuellement, on peut appréhender les questions et les problèmes de la Tunisie qui ont été à la base de la révolte et de la révolution en termes uniquement de droits économiques et sociaux ? Parce que le problème essentiel, c'est celui de l'emploi, de l'accès à l'emploi. Et si on raisonne uniquement en termes de droits économiques et sociaux, mis à part les déclarations de principe, on ne va pas créer des emplois. Et donc pour créer des emplois, il me semble qu'il faut repenser le modèle économique. Et ça, je pense que ce n'est pas uniquement en termes de droits économiques et sociaux qu'il faut repenser, c'est évidemment tout le modèle, ce qui est d'autant plus difficile puisqu'on est dans un système global qu'on ne peut pas changer, et que la Tunisie étant un petit pays, on ne peut pas se baser sur le marché national, donc on est obligé de rester dans cette structure de dépendance vis-à-vis de l'international, et donc obligé de faire avec cette contrainte. D'autant plus que les investissements étrangers, s'ils venaient en Tunisie, c'est aussi parce que les salaires étaient bas et qu'il faut prendre en compte cette considération. Donc, à mon avis, à côté de la dimension absolument fondamentale des droits économiques et sociaux, il faut aussi penser à toute cette dimension de repenser ce modèle économique et donc des politiques économiques. Et donc, c'est une autre facette, mais de ce que tu as dit, Abdelkhalil, ça ne peut pas se faire sans l'État. Parce qu'évidemment, on peut toujours avoir des initiatives privées de compensation, mais ça n'empêche pas une action nécessaire de l'État. Donc c'était un petit peu dans cette réflexion, quelle est ta vision à toi dans cette dimension-là de redéfinition des politiques économiques et comment prendre en compte à la fois cette contrainte internationale qui s'impose à la Tunisie comme à pratiquement tous les pays, tout en tenant compte de cette priorité fondamentale qui est la création d'emplois.
Merci. Elle m'a devancé. Je voulais poser une question sur le modèle économique sur lequel on doit penser en ce moment. Et en particulier, une réflexion est en cours en ce moment sur le problème de la dette. Et le monsieur a posé la problématique de la sanction sur le plan de la prise de décision économique, à savoir que la Tunisie a contracté une dette. Bon, sous l'ancien régime. Maintenant, le problème de la dette se pose à nous. Les créanciers nous ont contactés pour nous dire qu'il faut rembourser absolument et dès maintenant la dette. Est-ce que nous, peuple, maintenant, l'ancien régime est parti. Je ne vois pas pourquoi les créanciers ne sont pas allés les chercher pour rembourser leur dette, alors que l'argent est chez eux, d'ailleurs. Ils n'ont qu'à le récupérer directement. Il est en France, il est en Suisse, il est au Canada, etc. Alors, on nous dit rembourser la dette. Oui, on rembourse la dette. Monsieur, notre PDG de la Banque centrale, si Kamel Nebli, s'engage, je ne sais pas si c'est au nom du peuple actuellement ou au nom de l'ancien régime, pour dire oui, nous allons payer la dette. Sur quoi ? Sur le budget. Alors, est-ce que ce n'est pas une double sanction pour le peuple ? Ce n'est pas une sanction pour ces jeunes qui n'ont pas d'emploi actuellement ? Ce n'est pas une perte de quel budget ? Alors, si la Banque centrale s'engage, le directeur de la Banque centrale s'engage pour payer une dette sur le budget actuel, alors qu'on est à une période où notre croissance est zéro et on aurait et le tourisme est au point mort, etc., etc. Sur quoi on va nous engager et avec quel mécanisme et sur la base de quel modèle, d'autant plus que le problème de la dette, c'est un problème qui n'est pas débattu publiquement. Il faudrait peut-être qu'on pose cette question et les intellectuels et économistes actuels doivent poser le problème sur le plan national parce que ce problème n'est pas débattu et il faut sensibiliser les gens sur cet aspect. Merci.
ننضم للموقف نتاع حكاية الديون من غير ما نزيد نعاود. أنا ضروري حكاية الديون هذه نطالب بإلغائها. كذلك الهام ياسر وفي الدستور يلزم نأكدوا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور. باكستيون باش ننزلوا عليها. هذه حاجة الأولى. حاجة الثانية كذلك راتيفيكاسيون دي بروتوكول الفاكولتاتيف تاع دروا ايكونوميك سوسيو هذيك اللي ندي بها المنظمة العفو الدولية وندي بها برشا منظمات المصادقة على البروتوكول الاختياري تاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. تو مش غدو. صادقت على برشا اتفاقيات ضروري ندعو الحكومة هذه باش تصادق على الاتفاقية هذه. كذلك راح احنا تو لازم نعملوا نقد ذاتي. في الندوة متاعنا هذه ما عطيناش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حقها. نحن نفكروا كما يفكروا برشا ناس شهرية عندهم شهرية عندهم ما يأكلوا عندهم ما يشربوا. أما نقول لكم راهي ثم برشا عباد ما عندهمش شهرية بطالة ما عندهمش ما يأكلوا ما عندهمش ما يشربوا. لا عندهم لا ماء لا ماكل لا حتى شيء في الجبل. تفرجتوا مرة في التلفزة متاعك المرأة إيش قالت؟ قالت نحب ولدي يقرأ وكرني متاع دواء. ولدي يقرأ وكرني متاع دواء في الجبل متاع عندراهم متاع وغيرها في برشا بلايس فهمتني يعيشوا مع الحيوانات. وهذه راهي حكاية من قبل قلنا تو عندنا قديش من سنة في قناة الحوار المراسل مشى يصور بقينا نص الليل باش خرجناه من مركز الحرس وتعدد في الكواريس وواحد ما شافها وتو رجعوا يحكوا واكتشفنا وحوض منجمي وغيره وغيره وغيره. ونحن راقدين سامحوني احنا كيس كنا فيه نو كوم سوسيتي خاطر عندنا شهريات ما نحكوش على اهم حاجه هي الشغل اهم حاجه هي الوضع الاجتماعي. وشكرا.
عندي سؤال يتلجلج كما يقولوا في صدري ويتردد في ذهني وهو سؤال محير حقيقة وبدأت أجد نوعا من الإجابة عنه في هذا الملتقى وهو مثل ما قالت الأستاذة إيبو كاترين إيبو هو الأنموذج الاقتصادي. احنا وقت حلم وقت تساؤل كبير جات فرصة خارقة للعادة أن في الثورة هذه قلنا مش نقطع مع هذا البائد من الدكتاتوري. واضح السؤال تطرح من قبل طرحينه سنوات الجمر وأتت الفرصة بالثورة أن قلنا سنقطع. هل سنقطع مع النموذج اللي بدأ في السبعينات والثمانينات والتسعينات متاع هالاقتصاد المتوحش هذا اللي ما يستنفع منه إلا عدد قليل؟ هذه هي فرصتنا. رأيي أنا هالنموذج هذا جاب لنا الدماء. نبدأ بالأخر سي عدنان وسي مسعود هم هنا معناه الأحداث متاع توا عويمين ومآسي الحوض المنجمي قبلها باش ما نذكرش جميع المحطات الدموية أحداث الخبز قبلها أحداث قفصة قبلها الدم متاع 26 جام في وعنا بعض. إذن هالسياسة هذه اللي همشت واللي الأمثلة هذه اللي احنا عايشينها ونعرفها والناس هذا الأغلبية هل أنا وبالخصوص كان لنا الحظ باش استمعنا في الندوة هذه وقبلها وإن شاء الله بعدها ونزيد ونتعمقوا سي عبد الجليل وغيره ماذا بينا يتعمقون في دراسة النماذج متاع أمريكا الجنوبية والطرق الجديدة. راهي فرصة الآن باش نقولوا أيضا كفى هذا النموذج وندخل في مغامرة جديدة ربما ما عناش مش النقل متاع أمريكا الجنوبية ولا نموذج البلدان الأوروبية اللي في شمال السويد وغيرهم، ولكن نستوحاو منهم ولنقطع أيضا مع دابر هذه هذا قناعات شخصية. كيف سيكون هذا الطريق؟ لابد من الحلم، لابد من الخيال، وأخواننا المسؤولين والمختصين في الاقتصاد مع الاستماع إلى هذه التجارب في تونس وغير تونس، كأن رجعنا توكاية ل 56 البطاقة العلاج ونشر التعليم. حقيقة معناها فرصة خارقة للعادة. أنا أعتقد أنه أيضا من قرارات هذه الندوة أن تقول أنا الأوان أحد النتائج القطع مع هذه السياسة التي أسالت الدماء وكانت مأساة. وشكرا.
شكرا مسعود. بالله مسعود وبعض الأستاذة وعبيد حب كلمة وأنا دبروا القرار لكم، تحبوا تقعدوا تقعدوا ما تخرجوش مش مشكلة، خاطر الوقت ضابط الاخر ماش
يعني انا مش يعني نفس التساؤلات يعني، ونواصل مع الكلام اللي قالته مدام عيبو استاذ جلول، وهو ان الثورات المتتاليه منذ الحوض المنجي الى حد الان الم تكن ثورات يعني هي مش على النظام التونسي فقط بل على نظام عالمي جائر، يعني مس من الحياة الاجتماعية للناس. صحيح ربما مسؤولية النظام التونسي هو في تعميم الرشوة والمحسوبية، ولكن التفاوت الاجتماعي وبناء يعني الاستثمار على قاعدة تدني الأجور هو يعني جزء من التقسيم العالمي حسب رأيي للعمل، وجزء من المشكلة التي لا تعود يعني ليست تونسية فقط بل نظام عالمي. وهذا يدفعنا إلى تساؤل آخر، يعني هو كيف يمكن أن نبني اقتصاد تونسي يأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية في ظل نظام عالمي جائر بهذا الشكل يؤمن بصراحة بضرورة أن يعيش يعني أقلية ب20% في العالم ويهمل بقية الناس. والنقطة الثانية التي أريدها، أنا لا أحبذ التقسيم بين الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية. علش؟ لأنه بالنسبة لي أنا مثلا الكلام اللي تقال توا وهي قضية الجهات وأولوية الجهات، يعني إذا من ما يكونش هناك سياسة واضحة وهناك ترتيب دي بريوريتي واضح، ثم خشية أنه نرجع لعقلية الجهويات اللي هي سائدة تو في الوقت الحاضر واللي ممكن تأثر مستقبلا على الحياة السياسية في تونس. إذن يعني التواصل بين السياسي وبين الاجتماعي وبين الاقتصادي ضرورة قصوى تتبناها دولة فاهمة أولوية الجهات، ولكن في نفس الوقت تتعامل بشفافية وحكمة مع مختلف المسائل المطروحة. إذن هذا يعني هذا الإشكاليات، إشكالية بناء نظام اقتصادي جديد في ظل يعني أنا أحبذ الكلام اللي قاله الأستاذ عزون، لكن هل يمكن أن نفعل ذلك في ظل الوضع الاجتماعي الموجود، أو أن نبقى كما المجتمع المدني في الفروم سوسيو إلى آخره أنه نحن نقطة معار وضغط في اتجاه نظام اقتصادي عالمي جديد، أو أن يستمع أن نبني يعني جزيرة تونسية فيها وضع اقتصادي خاص إلى آخره. شكرا.
شكرا.
Quant à l'actualisation des données de la Tunisie, il y a une interaction très proche entre les données et le choix du système. Alors, les données, on se rend compte que toutes les données sont fausses. L'emploi, quel sont le genre de, j'ai l'impression que tout est faux. Et alors, urgence, s'il vous plaît, s'il y a des instances spécialisées ou des ONG ou des associations, ou dire qu'on doit faire le tour de la Tunisie et rapidement pour qu'on sache quel type d'éducation ont les jeunes, dans quelle région, quelle spécialité, qu'est-ce qu'ils veulent faire, leurs souhaits, pour organiser tout ça, les transports. Mais vraiment, on ne peut pas avancer. Il y a une urgence là. Et je vous prie de répondre positivement à cet appel. Et merci. Et pour la dette, il y a une manifestation maintenant à 11h. Je donne à qui ? À 11h devant la Banque centrale.
Aïe, moulahavtine, faqat. Moulahavtine, l'oula. مانيش من نتفق مع الأستاذ مسعود الرمضاني في علاقة الجدلية بين الاجتماع والسياسي على اعتبار أني نحس اليوم بالتجربة سواء في تونس أو في مصر أو في ليبيا أنه المطلب السياسي أصبح يعيش عالة على المطلب الاجتماعي. وهذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه كثرة التفكير في طرح تدخل الدولة لتخفيف من حدة هذه الليبرالية المتوحشة هو يعبر عن عجزنا في إيجاد أو في طرح بديل اقتصادي آخر. وشكرا.
Moi, j'ai deux questions pratiques. Alors, dans les échéances, il faut rester dans une langue. Nous avons une échéance à courte vue qui va mobiliser toute la population. Et nous sommes appelés à un travail de terrain. La première question, elle a trait à ce que disait Monia tout à l'heure. Elle est alertée parce qu'elle est allée voir ce qui se passe dans les régions. En rapport avec ce que avait dit notre ami là concernant les mécanismes, alors entre la rue, la demande de la population et les organismes, les corps constitués, quel rapport établir ? À l'heure qu'il est, il y a ce qui existe, ce qui a pu survivre comme grandes organisations, c'est l'UGTT et des vestiges, je dirais, de sections de la Ligue des droits de l'homme. Est-ce que c'est un appel, si on pouvait inscrire ça, dans quelle mesure ces deux grandes organisations peuvent-elles éponger une disposition jamais vue de la population à participer ? Chose dont nous avons rêvé depuis 50 ans, nous avons les mouvements étudiants, les mouvements de femmes, chaque fois qu'on est sorti dans la rue pour dire un mot de revendication, on s'est retrouvé tout seul. Et là, il y a un débordement, il y a une très forte disposition. Comment canaliser ? Il y a 3 jours, nous avons assisté à une réunion des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, alors là, il y a un appel, attention, de ne pas exagérer ces fonds. Il faut bien les placer, auprès de qui les placer, mais il y a de très fortes dispositions. Est-ce que ces grandes organisations peuvent se doter de structures ad hoc ? C'est pas nécessaire que ce soit nécessairement les syndicalistes, mais des anciens syndicalistes, des militants des droits de l'homme, peuvent-ils venir au secours de structures, mais sous le contrôle de Tihad Chour, de l'UGTT, de la Ligue, moi je peux en parler, pour servir justement à cette écoute, pour répercuter, parce qu'encore une fois, on a l'impression que ces gens crient dans le désert, des gens qui ont encore des balles dans le corps, c'est absolument insensé. Donc il y a cet appel à s'appuyer sur ces deux grandes, je ne sais pas, nous ne connaissons pas entre associations, mais les associations qui ont fait quelque part leur preuve dans le service citoyen, que ce soit sur le plan des droits de l'homme ou sur le plan des demandes sociales. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je m'adresse à Si Abdelil. Nous sommes à la veille de l'adoption d'une constitution. Je vous demande, s'il vous plaît, en tant qu'expert et en tant que proche de l'UGTT, dans quelle mesure l'inscription de ces droits économiques et sociaux vont se heurter à une résistance. Nous allons parler maintenant, nous allons essayer d'aller vers les citoyens. Dans quelle mesure cette inscription de ces droits-là dans la constitution représente une résistance ? Et là, je réfère aux résistances que nous avons eu l'habitude de nous heurter concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination en vertu de l'article 1 de la Constitution. Est-ce que les résistances, de quel ordre sont-elles ? Là, ça réfère à un conflit patronat-ouvrier. À quel point ce conflit est irrésistible ? À quel point nous allons nous heurter au même rejet de la rue quand on dit levons les réserves sur la Convention sur l'élimination. Les réflexes sont des réflexes identitaires. Malheureusement, la culture de la rue continue à être à opposer ces résistances. Dans quelle mesure nous pouvons foncer pour dire inscrivez ça dans la Constitution ?
Merci. La dernière intervention avec monsieur.
Bonjour, merci. Oui, c'est Gerald Stabock, l'Organisation mondiale contre la torture. Je voulais suivre un peu ce que mon prédécesseur, désolé pour mon français, a dit sur l'importance de la réforme constitutionnelle et les droits économiques sociaux. Et moi, je viens de l'Allemagne, juriste de formation, et je crois que nous avons raté en 90 d'intégrer les droits économiques sociaux au plan égal sur le plan juridique dans la Constitution quand il y avait la réunification. Et pourtant, je crois que l'attente de la population à l'est de l'Allemagne, c'est aussi la réalisation très fortement des droits économiques sociaux. Et je crois qu'il y a une opportunité, une occasion maintenant avec cette transition de vraiment débattre ce traitement inégal entre droits économiques sociaux et avec les droits politiques et civils. Et là, on doit se poser aussi quelles sont les mesures pour la mise en œuvre de ces droits. Et on doit discuter la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels. Et je crois qu'il y a aussi un travail à faire avec la communauté juridique à cet égard. Parce que je vois que si on a parlé hier sur la réforme de la justice, il n'y avait aucune mention des droits économiques, sociaux dans cet égard. Et je sais bien, de mon contexte en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays, il y a une certaine une attitude conservateur dans la communauté juridique qui ne regarde pas toujours les droits économiques sociaux comme des droits. Et je crois que la société civile, des ONG, peuvent jouer un rôle essentiel sur ce plan avec les formations, mais aussi avec des programmes d'accès aux justices pour des groupes marginalisés. Et je crois que ça sera peut-être important à considérer. Merci.
Merci bien. نعتذر بالله على خطر الوقت ما عادش معناها ضغطنا الوقت ما نجموش نواصلوا في التدخلات باش نعطوا بعض الدقائق للسي عبد الجليل ومنيا وحسيبه باش اذا كان عندهم ردود او اجوبه على تفضل سي عبد الجليل
عندنا برشا ردود لكن الوقت ما عندناش تري رابيدمون نتكلم كاسوسياسيون هذه لو فوروم بور لي دروا ايكونوميك سوسيال اولا احنا طالبين انه هل الدروا فيغور دون لا كونستيتوسيون ان فرونسي طالبين كل الدروا فيغور اي سا اوفر لا فوا على جوستيسابيليتي دي دروا ايكونوميك اي سوسيال طالبين ان يوقع راتيفيكاسيون دو بروتوكول اديتيف فاكولتاتيف دي تي فاكولتاتيف كي ا ايتي جوستومون فوتي لو 10 décembre 2008 Et on a envoyé même ces demandes au gouvernement. Troisièmement, on a mis en place une commission pour réfléchir sur l'alternative économique et sociale. Mais sachant que, en fait, cette mission incombe en premier lieu aux partis, en fait, parce que les partis qui vont accéder au pouvoir, c'est à eux, justement, d'exécuter les programmes. Nous, on va essayer de repenser le modèle. À partir de quel, justement, opinion on a, justement, pris en charge cette question de repenser le modèle ? Parce que nous considérons que les droits sont indivisibles. Les droits sont indivisibles. Surtout les droits politiques et civiques sont indivisibles de droit économique et social. Seulement, actuellement, autant les droits politiques et économiques peuvent relever des droits, de la logique de droit, autant les droits économiques et sociaux ne peuvent relever que de la nature du modèle économique. Il faut repenser le modèle économique. Ce n'est pas seulement question de droit. Encore faut-il que les politiques économiques, le modèle, favorisent la garantie de ces droits. C'est pour cela que je remercie justement ceux qui ont pris la parole et qui ont souligné l'importance du modèle économique et social qui mériterait d'être repensé dans le sens de la garantie, parce que c'est ça la garantie réelle. On peut toujours ouvrir la justice pour que les gens introduisent des procès de violation de ces droits. Mais encore faut-il que, dans la réalité, en fait, l'approche, la vision, le programme favorisent la réalisation de ces droits. Quatrièmement, c'est juste pour l'information, à côté d'une commission de réflexion, nous considérons que la Tunisie reste encore coupée en deux, comme avant, 14 janvier. Avant, le littoral insiste sur la croissance, d'ailleurs sans parler de sa répartition, alors que l'intérieur insiste sur le développement. Après le 14 janvier, la même dualité, la même division, le littoral se préoccupe de la transition démocratique, mais l'intérieur se préoccupe pourtant plutôt de la transition économique. Donc nous sommes toujours dans une situation dichotomique de dualité et qu'il faut dépasser en faisant le lien entre les droits et entre la nature du modèle. Et cela nécessite de repenser un peu notre approche globale et pas partielle seulement. Et à partir de cette constatation, nous avons présenté pour des bailleurs de fonds un projet consistant à faire des contacts directs dans les différentes régions pour saisir les attentes sur le plan économique et social des gens et pour justement partir de ces attentes pour redéfinir le modèle. Il ne faut pas que le modèle, parce que la commission qu'on a constituée, bien qu'elle elle est formée de 25 économistes de différentes spécialités. Ces 25 économistes ne doivent pas mener une réflexion bureaucratique, ils doivent mener une réflexion qui part des attentes justement de la population. C'est le forum pour les droits économiques sociaux. En tant qu'expert évidemment de l'UGTT, je suis en train de pousser aussi l'UGTT pour aller dans le même sens, c'est-à-dire ratifier le protocole, inscrire les droits économiques sociaux dans la Constitution. Et toute la société civile doit faire pression sur toutes les organisations, toutes les associations. Ce n'est pas question seulement de coordonner leur action, surtout de coordonner. Voilà, j'ai essayé un peu de fixer quelques repères pour qu'on puisse agir dans le même sens en tant que société civile et pouvoir exercer une pression suffisamment forte pour qu'on puisse réaliser ces principales revendications. Merci.
Juste une remarque brève pour répondre à votre question, c'est sur l'importance des données statistiques. Vous aviez mentionné que les droits économiques, sociaux et culturels, c'est aussi des droits progressifs dont la réalisation est progressive. Et pour ça, on a besoin de savoir quelle est, par exemple, l'allocation budgétaire accordée par les autorités tunisiennes à l'éducation, à la santé, etc. Parce qu'on a besoin de savoir, est-ce qu'ils font le minimum nécessaire ? Et j'anticipe déjà que les autorités vont avancer, qu'elles font face à énormément de difficultés pour essayer d'échapper à leurs obligations internationales. Et on a remarqué, lorsqu'on a travaillé par exemple sur les événements du bassin minier, que les statistiques en Tunisie sont manipulées, les statistiques sont fausses. On vous donne des taux de chômage qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Et c'est très difficile ensuite d'analyser le budget, par exemple, si vous n'avez pas les bonnes données. Alors oui, cette analyse, ces données statistiques peuvent être faites par les autorités tunisiennes, mais aussi par d'autres organismes, le BIT, l'OMS, etc. Et c'est un message qu'on doit commencer à relayer, et qu'on doit tous commencer à relayer à différents niveaux.
Moi, je n'ai pas eu véritablement de questions, mais pour répondre à ce qu'a dit Rabia, je crois. effectivement, ces centres d'écoute et d'orientation peuvent être pris en charge par l'UGTT et la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Elles le font déjà, hein, elles le font déjà. Elles sont très, très présentes sur place, mais je pense que ça ne suffit pas. Elles sont submergées. Il faudrait que l'État aussi s'engage à ce niveau-là et que et qu'il fasse... Enfin, en fait, c'est, il faudrait que l'État fasse son travail, c'est-à-dire que les municipalités, les gouvernorats, etc., fassent leur travail d'écoute et d'orientation des citoyens et des citoyennes, ce qu'ils ne font pas. Il faut qu'ils le fassent, éventuellement recruter des personnes pour écouter et orienter les familles en détresse économique et sociale.
شكرا نكتفي بهذا ونرفع الجلسة لبعض الراحة قهوة
بعد الراحة